Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Marc, s'il vous plaît. Et nous allons faire une très courte lecture et nous apporterons un commentaire sur ce petit texte. Alors, je répète, Marc chapitre 2 verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Alors c'est simplement ce petit texte que le Seigneur m'a mis à cœur de positionner notre réflexion ce soir. Alors on découvre que dans les pérégrinations de Jésus, il allait dans un lieu et dans un autre, et il se retrouve donc dans son PC, son poste de commandement qui s'appelle Capernaum dans les premiers temps de son ministère. Donc il s'est cantonné dans la Galilée, Capernaum était la ville principale. Et il y a une petite phrase sur laquelle nous allons méditer. Il nous est simplement dit « on apprit qu'il était à la maison ». Et c'est très intéressant parce que on va faire une petite visite de la Bible sur tout simplement le fait que Jésus ce jour-là est rentré dans une maison. On a appris, les gens ont su qu'il se trouvait donc dans un endroit, une maison en l'occurrence, où il s'est passé des choses assez particulières parce que vous avez remarqué avec moi, c'est que il y a eu une foule immense. Il nous est dit qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Alors imaginez-vous à l'intérieur. Jésus a entraîné avec lui une foule, des hommes, des femmes, des vieillards et même un paralytique, figurez-vous, qui a été amené par quatre de ses amis et qui ont fait une ouverture dans le toit pour le descendre sur son lit de misère et le mettre en présence de Jésus. C'est quand même assez extraordinaire. Et là, il va y avoir un enseignement des plus forts que Jésus n'ait jamais donné. C'est la relation dans le pouvoir. Pouvoir à la fois de guérir un homme qui est paralysé, et en même temps, donner la preuve que Jésus est Dieu. Que non seulement il a le pouvoir de guérir cet homme, miraculeusement, d'une manière surnaturelle, mais une autre chose qui ne se voit pas, parce qu'un homme paralysé qui se met à marcher, ça se voit. Mais Jésus va faire encore un plus grand miracle qui va susciter de l'opposition naturellement, voire même de la haine et de la colère sur sa personne. C'est qu'il va déclarer « Autant, je suis capable de guérir cet homme et de l'amener à marcher tout à nouveau. Moi, je voudrais vous dire que je suis aussi capable de pardonner ses péchés. » Alors, ça a déclenché un tollé général, naturellement. Mais on va revenir à la proposition première quand il nous est simplement « on a appris qu'il était à la maison ». Alors, on ne sait pas quelle maison, en tous les cas, il s'est trouvé, certainement invité, dans une maison de la ville de Capernaum. On ne sait si c'était une connaissance déjà d'avant, ou si s'est trouvé tout simplement, un sympathisant de Jésus qui l'a invité à venir. Mais quand Jésus vient, il vient avec aussi ses disciples. Mais il ne vient pas seulement avec ses disciples, il vient avec ses amis, avec ses sympathisants, c'est-à-dire la foule qui est là, avec différentes motivations probablement, peut-être voir un miracle. En tous les cas, entendre sa parole, puisque c'est quand même dit, il leur annonçait la parole. Et puis il y a aussi ses ennemis qui sont là, et qui vont finalement être les principaux détracteurs de Jésus dans cette circonstance et dans cette occasion. On a appris qu'il était à la maison. Je dirais que depuis toujours, et vous en conviendrez parce que c'est pas difficile de le constater, les hommes ont voulu toujours construire des maisons à Dieu. Il n'y a pas dans notre pays un village, il n'y a pas un hameau, il n'y a pas une commune, il n'y a pas une ville où il y a une ou plusieurs églises, chapelles, quand ce n'est pas des cathédrales ou des basiliques. Et ça, c'est tout le monde chrétien, qu'il soit chrétien du catholicisme ou orthodoxe, d'une manière ou d'une autre, où il y a des temples dans le milieu protestant, naturellement. Et tout cela dans un but, eh bien, d'honorer Dieu. En ce qui nous concerne, c'est surtout un lieu pratique. Je vous demande d'admirer quelques instants nos vitraux. Mais c'est surtout de pouvoir offrir à nos conviés ou à ceux que nous invitons, eh bien, au moins un lieu chauffé, confortable, agréable, pour être dans les meilleures conditions pour écouter la parole de Dieu. C'est tout ce que nous voulons. Maintenant, c'est vrai que d'autres ont pensé qu'il fallait véritablement se mettre en frais pour faire un édifice, une maison de Dieu, mais quelque chose de somptueux. Et quand on admire, parce que ça fait partie du patrimoine national, quand on admire ces basiliques ou ces cathédrales, on est ébloui, on est émerveillé, on se dit, mais comment des hommes, et dans d'autres temps que les nôtres, où peut-être les constructions étaient certainement beaucoup plus difficiles, mais quel raffinement, quelle architecture, quelle beauté, quelle pompe, somptueux. Et ça, ça a toujours été véritablement, eh bien, le but que les hommes se sont donné, l'expression de leur dévotion et de leur piété. Et je peux supposer que dans le temps, ou dans les temps, enfouis finalement dans l'histoire, beaucoup ont donné leur vie pour cela. Hein. Beaucoup ont donné leur argent, d'ailleurs, il y a eu à cette occasion des promotions, on pourrait dire, que finalement les dons étaient accueillis généralement en contrepartie d'indulgences, enfin toutes sortes de choses. Ça, c'est le monde religieux. Alors, construire une maison pour Jésus. Je suppose que dans le texte, cette modeste maison, Jésus s'y est trouvé, il s'y est retrouvé. C'était l'occasion d'une formidable parole, un formidable message, un formidable enseignement sur la puissance de Dieu, les capacités infinies de Dieu, la compassion aussi manifestée pour cet homme, et l'occasion, en effet, eh bien, de nous laisser ce message ce soir, entre autres. Alors, l'histoire humaine et religieuse est encombrée, finalement, de ces maisons construites. De tout temps, les hommes, et en dehors même du christianisme, ont voulu édifier des mausolées, des pyramides, des temples, enfin toutes sortes de choses. Et ça, ça dépasse le clivage de cette organisation chrétienne, nous pourrions dire. Et sous tous les continents, sous toutes les latitudes, eh bien, c'est ce que les hommes ont fait. Un encombrement de tout cela, bien sûr, les hommes y ont mis tout leur savoir-faire. Alors je crois que à partir de là, nous allons pouvoir marcher sur la pensée, enfin pas marcher dessus, mais emprunter la pensée de Dieu par rapport à cela. Vous savez que dès l'abord de l'évangile de Jean, il y a une belle histoire qui nous est rapportée. C'est la question de quelques disciples, les premiers disciples, on est à la première heure de l'évangile, qui sont venus voir Jésus et poser la question, en tous les cas cette question, et je voudrais vous rappeler le texte. Écoutez bien. Le lendemain, Jean était là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Si vous permettez, je vais faire une petite digression. « Qui cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? » Et ils lui répondirent « Rabbi, où demeures-tu ?» On cherchait déjà la maison. Où pouvait habiter Jésus ? Où demeures-tu ? Alors les disciples, naturellement, vont s'entendre dire de Jésus, mais venez et voyez. Alors ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ça, c'est déjà la première localisation, en quelque sorte, qui se manifeste par une question, par une interrogation adressée à Jésus, mais où est ta maison, en quelque sorte ? Quelle est ta demeure ? Alors, on a fait beaucoup de commentaires. Moi-même, j'en ai fait des commentaires sur cette question. Aujourd'hui, là où Jésus demeure, et le lieu de prédiction où nous pouvons trouver Jésus, c'est dans sa parole. Nous pourrions dire que la maison par excellence, la maison de Dieu, par-delà les bâtiments et tout ce que vous voulez, là où on rencontre Jésus, là où on peut découvrir Jésus, c'est sa parole, c'est dans sa parole. Il est lui-même la maison, il est lui-même la parole vivante, naturellement. Alors, cherchez où Jésus habite. Il y a une deuxième suggestion qui peut être faite, mais quelle maison serait digne pour l'accueillir et lui plaire? Voilà. Les hommes ont multiplié l'imagination, ont rivalisé en quelque sorte d'imagination pour faire ce qu'il y avait de plus beau. Il y a des choses somptueuses, des choses admirables. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de visiter la cathédrale d'Albi. Pour ceux qui connaissent, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais si vous avez l'occasion d'aller dans le Tarn, visitez. Moi, j'y suis pas allé pour allumer quelques bougies, hein. J'y suis allé tout simplement pour voir à la fois l'extérieur et l'intérieur, parce que c'est quelque chose. C'est un style unique, hein. Et on s'est dit, mais quelle richesse! Et naturellement, quand on suit un petit peu les commentaires, on s'aperçoit que c'est il y a très très longtemps, certainement au sortir des guerres de cette religion cathare, vous comprenez, pour essayer de remettre en place, toute l'institution de Rome qui avait été bousculée. Alors on a construit une somptueuse, une cathédrale. Alors c'est vrai que, qu'est-ce qui pourrait être digne? Et je vous le dis, je le répète, les hommes ont vraiment déployé tout ce qu'ils pouvaient avoir en capacité. À qui se ferait la plus belle basilique ou la plus belle cathédrale? Voilà. Et dans nos pays occidentaux, enfin, notre Europe occidentale, il y a vraiment ce qu'il faut. Mais je crois que c'est Paul qui répond à cette question au cours d'une prédication, une prédication d'une grande importance, qu'il avait adressée à ses auditeurs du moment, c'est-à-dire à Athènes, les Athéniens. Voilà. Et nous avons cette parole, justement, qu'est-ce qui peut être digne, qu'est-ce qui peut être suffisamment beau pour le Dieu de l'univers, le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Alors, au chapitre 17, je lis tout simplement, et au verset 24, il nous est dit, mais c'est Paul qui le dit dans sa prédication, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. » Non, non. C'est quand même curieux que l'évangile et l'histoire des actes des apôtres remontent au début de l'ère chrétienne et qu'on n'ait jamais tenu compte que ce christianisme qui se veut finalement près de Dieu n'ait jamais pu retenir cette injonction de l'apôtre Paul qui dit « Mais le Dieu que nous avons à adorer, à vénérer, mais il n'habite pas dans des maisons de terre et d'argile. » Il a fait le monde, il a fait le ciel et la terre. Alors, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, naturellement. Et il poursuit. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Et il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang, etc., etc. Nous devons comprendre que cela, ça touche quelque chose, que notre approche de Dieu n'est pas matérielle. Elle n'est pas physique. Mais elle est tout simplement spirituelle. Et nous allons aller, au fur et à mesure de notre développement, que quelque part il ne s'agit pas d'une cathédrale ou d'une basilique, mais quelque chose de beaucoup plus intime, quelque chose de beaucoup plus grand aux yeux de Dieu, dont Dieu a finalement un grand souci, c'est le cœur de l'homme. Et ça ne se fabrique pas. Ça peut se réparer un cœur, quand il y a des problèmes cardiaques, mais ça ne se fabrique pas. C'est autre chose. Ça, c'est finalement, la création de Dieu. Mais on en reparlera tout à l'heure. Et puis, est-ce que nous pouvons lui offrir une maison flottante? Quelque chose qui bouge? Ça me fait penser finalement à la barque de Pierre. Vous savez, la barque de Pierre, c'était pas une maison, mais c'était un refuge quand même. C'était un moyen de pouvoir aller sur l'eau. Et une barque pour secourir les hommes, tout simplement, dans leur déception et leur dépit. Vous connaissez l'histoire. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, il nous est dit que Pierre et ses compagnons avaient pêché toute la nuit. Et quand ils sont revenus au petit matin, leur filet était vide. Ils étaient fatigués, ils étaient dépités, ils étaient découragés, démoralisés, parce qu'il n'y avait plus rien pour faire vivre finalement leur famille. Et voilà qu'un inconnu s'approche. C'est Jésus, naturellement. Et il va demander à Pierre, il va lui dire tout simplement, « Est-ce que tu veux bien me prêter ta barque ?» Et Pierre a accepté. Il est allé de quelques coudées sur le lac et là, il s'est mis à enseigner toute la foule. Il a annoncé la parole comme nous l'avons vu il y a un instant. Il a annoncé la parole. Et vous savez ce qui s'est passé tout de suite après? Jésus a arrêté de cesser de parler. Il a dit à Pierre, « Écoute maintenant, avance en pleine eau. Jette ton filet de ce côté-ci. » Et c'est ce que Pierre a fait. Et là, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on peut appeler la pêche miraculeuse. Oui, là où Jésus demeure, il y a véritablement le miracle de Dieu. Ça, c'est quelque chose. De rechercher finalement l'endroit où est Jésus, de venir ou de l'inviter dans notre maison ou dans notre barque, on peut dire ça comme ça si vous voulez, c'est véritablement à chaque fois, nous le voyons et nous allons le revoir d'ici quelques instants, eh bien, la manifestation encore de la puissance de Dieu, du pouvoir de Dieu sur toute chose. Parce qu'il faut bien l'avouer, c'est un miracle, hein. Ils ont pêché de nuit, ils n'ont rien pris. En jour, c'est pas la peine de sortir en bateau pour aller à la pêche. Ça ne sert à rien parce que le poisson ne se fait pas prendre. Et là, pourtant, contre la nature, eh bien, les choses vont se faire, miraculeusement. Alors, une maison flottante. Et puis, on le voit aussi à travers les récits de l'évangile, les récits évangéliques. C'est l'inviter également à rentrer dans la maison du bonheur. Et je pense à Cana, par exemple. Oui, Jésus a été invité avec ses disciples à assister à la fête de la vie entre, on pourrait dire, un Salomon et une Tsunamite, hein, pour nous rappeler finalement l'hymne de l'amour hein, dans le livre des Cantiques des Cantiques. À Cana, voilà. Pour nous montrer encore une fois de plus que inviter Jésus ou aller là où il se trouve, entrer avec lui dans la maison, dans sa maison à lui, ou dans notre maison, alors à ce moment-là, eh bien, il est capable de faire des choses inattendues. Eh oui, inattendues, parce que multiplier l'eau et le changer en vin, c'est quand même pas une chose banale. Mais c'est l'inviter aussi, eh bien, à partager les grandes peines de la vie. Il y avait la joie il y a un instant, mais parlons un peu, disons quelques mots sur les grandes peines de la vie. Et ramener, ou réanimer, ou ressusciter la vie là où elle n'est plus. Et nous pensons naturellement, eh bien, à cette tragique histoire dans la maison de Lazare. Lazare est mort. Oui. Il est déjà même dans le tombeau. Et Jésus, voilà, va être sollicité par les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, de venir. Jésus va se rendre après quelques délais. Et nous voyons qu'il va y avoir quelque chose qui va dépasser toute l'imagination des hommes, qui surpasse toute notre compréhension et notre intelligence, c'est que il va ressusciter Lazare aussi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dira-t-il. Ouais, dans la maison, là où il y a la mort. Et puis, que dire également dans une autre maison? Un autre drame, une petite fille de 12 ans, malade. Jésus tarde en chemin. L'enfant décède. Elle est allongée dans la maison de son père, dans la petite chambre où on l'a recueillie. Et dans cette maison, dans la maison de Jaïrus, eh bien, il va se passer aussi un grand miracle. Il va prendre cette petite fille. « Jeune fille, lève-toi !» Et voilà que cet enfant, la vie revient. Son âme revient, tout simplement. Avec cette parole qui marquera et qui doit nous marquer encore, où Jésus dira, sur le chemin de la maison, mais si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Voilà. Crois seulement, ne crains point, crois seulement. C'est ça, Jaïrus. Voilà, toujours cette histoire de maison. Mais quelle disposition devons-nous avoir, hier comme aujourd'hui, pour le recevoir? Oui, pour l'accueillir. C'est la joie de Zachée, où nous lisons, par exemple, dans Luc, chapitre 19, où Jésus va se tourner en regardant vers un arbre, un sycomore, il aperçoit, il sait qu'il y a un homme qui s'appelle Zachée, Zachée le petit. Et ça explique pourquoi il est monté dans un arbre. Et il va dire cette parole, « Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans cette maison. » Et Jésus louera le courage. Il louera la foi de Zachée. Il louera également, eh bien, finalement, tout ce que cet homme a pu faire, et il louera sa joie aussi. Il le reçut avec joie. Je crois que suivre Jésus dans sa maison, c'est aussi un gage de joie, un gage de bonheur. Alors il y a Zachée, mais il y en a un autre également que nous connaissons bien. C'est Matthieu, Matthieu Lévi. Vous savez, ce publicain attitré au péage et qui est en train, non pas de rançonner parce qu'il fait son métier, mais bon, il est quand même assez décrié, comme Zachée d'ailleurs, hein, ils sont à peu près dans le peut-être la même configuration. Et nous voyons que, qu'est-ce que va faire Matthieu? Il va tout abandonner pour suivre Jésus. Lui, il n'aura plus de maison. Il sera comme son maître, qui n'a pas de lieu où reposer sa tête. Les renards ont des tanières, mais comme Jésus, Matthieu, eh bien, va se retrouver, lui, un petit peu en vagabond, en errance, quelque part, pour annoncer le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Matthieu va faire? La première chose qu'il va faire, tellement il est heureux, parce qu'il a reçu le salut dans sa maison, il a reçu le sauveur dans sa maison, il va inviter tous ses amis. Ses amis qui sont quand même peut-être pas de bonne réputation, mais néanmoins Jésus va aller à cette invitation et il va leur faire un festin. Et Jésus dira, mais je suis venu pour les malades, je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs, je suis pas venu pour ceux qui pensent être justes. Toujours cette histoire de maison. Il faut qu'aujourd'hui je demeure finalement dans cette maison. Alors, entre le désir de recevoir Jésus, et ça fait partie finalement de l'essentiel même de l'évangile que nous prêchons, parce que chaque fois que l'évangile est prêché, qu'il y a une interpellation, qu'il y a un appel, qu'il y a par, non pas la voix du prédicateur, mais l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, alors je crois qu'il y a naturellement quelque chose qui se passe dans le cœur, dans les consciences, dans l'esprit des hommes, c'est-à-dire le désir de le recevoir. Mais peut-être faut-il, et Jésus a tempéré, il a mis un petit peu, finalement, cette petite goutte de réflexion. Et si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, ce qui veut dire que si Jésus, nous l'invitons à venir, il va bousculer notre vie. Ça, faut s'y attendre. Parce que c'est comme ça, tout simplement. Il va bousculer notre existence. Et nous avons tous été bousculés par le Seigneur. Nous nous y attendions pas. Il est venu peut-être dans des moments qui étaient probablement des moments de Dieu. Parce que peut-être que dans d'autres situations, nous n'aurions jamais répondu. Mais c'était le moment, c'était le bon moment. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça l'a été. Je le comprends maintenant. Bien que c'était une période bien difficile, mais c'est comme ça. Et je crois qu'il est venu secouer ma vie. Il est venu me sortir un petit peu de mes tristesses, d'un état morbide. Ce qu'il faut le dire, pour certains, c'est autre chose. Mais toujours est-il une mentalité, quelque part. Parce que quand Jésus vient, il frappe à la porte, eh bien, il veut toute la place. Et vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de gens dans notre temps, et comme dans tous les temps d'ailleurs, qui cherchent un Dieu gentil, un Dieu complaisant, un Dieu qui ne regarde pas trop près, un Dieu qui est indulgent. Il est indulgent. Mais indulgent sur ce qui nous plaît, qu'il le soit, c'est-à-dire peut-être un petit peu nos mauvaises habitudes. Un Dieu qui ne dérange pas, en tous les cas, notre vie confortable. Tous les hommes que vous avez, en tant que disciples, qui ont répondu à Jésus, ils avaient une vie. Les uns étaient au travail, les autres avaient des fonctions, enfin toutes sortes de choses. Mais je peux vous dire que leur vie a changé, hein, radicalement changé. Alors si nous cherchons véritablement à être chrétiens et que nous voulons une vie confortable, ça vaut mieux oublier Jésus. Je le dis, hein? Oui. Pas la peine de trop y penser. Je suis pas en train de vous encourager à faire demi-tour, hein? Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est pas tout à fait comme ça. Parce que si nous lui disons, Seigneur, je voudrais te connaître, je voudrais connaître ta parole, un petit peu, vous savez, comme le feu de paille. Vous savez, la semence qui tombe dans la terre rocailleuse ou qui tombe dans les épines, ça pousse tout de suite parce qu'il y a des conditions superficielles et ça pousse, ça va très vite. Mais quand nous l'invitons à venir chez nous, il va déranger nos affaires. Il va déranger peut-être notre mentalité, notre façon de penser. Peut-être peut-il déranger notre vie affective dans un certain sens. C'est-à-dire qu'il va nous réapprendre à mettre les vraies valeurs en place. Les choses de premier ordre et des choses de second ordre. Et il va remettre cela, parce que pour bien aimer, eh bien, il faut apprendre de Jésus aimer, parce qu'il est amour. Et c'est lui qui peut nous donner, Eh bien, le juste milieu et l'équilibre. Les hommes ne savent pas aimer. Parce que ce qu'ils comprennent de l'amour, c'est la passion. Et la passion, elle dévore, elle aveugle et elle détruit. Et c'est peut-être là où, justement, eh bien, les choses doivent se faire. Parce que le Dieu que nous invitons, Jésus que nous invitons, il est ressuscité. C'est un Dieu qui est plein de puissance. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est actif. C'est un Dieu qui veut nous faire bouger, si vous me permettez l'expression. Qui veut nous amener à évoluer, à changer finalement dans notre vie intérieure, à peut-être faire tomber les forteresses de notre entendement, où nous sommes si sûrs de nous, de notre sagesse, de nos capacités, de nos forces, nous amener à progresser. C'est un Dieu qui veut nous émouvoir aussi, parce qu'il sait que notre âme est fragile, que notre cœur est fragile, que nous pouvons... Il veut nous toucher, puis il veut nous guérir aussi, ce Dieu-là. Eh oui, tout cela. Alors peut-être que nous cherchons un Dieu qui se tienne très sagement dans notre maison, dans un coin, comme une ornementation. Et vous savez que quand on regarde un petit peu autour de nous, la vie religieuse des gens, « Ah, mais le Seigneur est là !» Soit il est sur un crucifix, ou il est dans l'effigie, ou il est peut-être sur un tableau, à l'image du bon berger, vous savez, ça ne fait pas de bruit. On l'a accroché au mur et on lui dit « Tu restes là !» On sait qu'il va rester là, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je ne voudrais pas offenser qui que ce soit, mais je crois que c'est comme ça qu'on a fait un Dieu qui ne bouge pas. Que l'on va voir de temps en temps, peut-être dans une cathédrale ou une basilique, mais il est comme à la maison, il ne bouge pas. Il ne vous dérangera pas, tout simplement. Et c'est peut-être justement cela. Alors, Jésus est rentré ce jour-là dans cette maison. Il y avait beaucoup de monde. Et il y a un perturbateur qui est arrivé avec sa maudite maladie, il ne pouvait pas marcher, il pouvait aller autre part. Hein. Mais il n'est pas venu tout seul, il est venu avec 4 personnes, ils ont démonté le toit. La poussière tombait sur la tête de ceux qui étaient en dessous. Imaginez-vous un peu la scène. Jésus dérange, naturellement. Ouais. Alors, que faire à ce moment-là? Que faire? Quand Jésus prend toute la place. Il n'y a même pas de place pour rentrer tout le monde, puisque la place, l'espace qui était devant la maison. Maintenant, il faut savoir si nous sommes prêts à lui obéir. D'abord à croire en lui, comme il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est notre Sauveur, qu'il est le Seigneur de notre vie, et peut-être j'insiste sur ce dernier qualificatif, Seigneur. Seigneur, c'est un roi. C'est lui qui doit avoir la priorité, la prééminence, et... À partir du moment où nous le laissons rentrer dans notre maison, et vous allez comprendre le sens du mot maison, et de lui avoir demandé de contrôler n'importe quel domaine de notre vie, c'est lui. Mais il n'est pas un tyran, il n'est pas un despote, il n'est pas quelqu'un qui va nous mettre là dans la crainte et dans la peur de punition ou de mesures de rétorsion, non, 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 c'est pas comme ça. Et chose surprenante, c'est que on y regardera peut-être un peu de plus près, on va écouter un petit peu ce qu'il nous dit, mais il nous demandera de lui donner ce que nous ne pouvons pas lui donner. Figurez-vous, c'est curieux ça, hein. Et il nous demandera de faire ce que nous ne pourrons pas faire nous-mêmes. Il va nous demander de devenir ce que nous ne pouvons pas devenir par nous-mêmes. Et il le dira lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais si nous devenons, si nous faisons et si nous pouvons lui donner, c'est tout simplement à cause de sa grâce et de la force qu'il nous communiquera et de l'inspiration de sa parole. C'est comme cela, parce que c'est le seul moyen pour qu'il reste en premier, qu'il ait la prééminence dans notre vie et que nous ne cherchions pas à lui bâtir des cathédrales ou à des basiliques ou à des chapelles ou des églises d'une manière ou d'une autre. Ça, nous sommes capables de le faire, mais ça ne l'intéresse pas. Et nous en venons à l'essentiel maintenant. C'est que la foi en Dieu n'est pas à l'extérieur, dans quelque chose qui a été fait de main d'homme, mais la foi en Dieu, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça le vrai message. Recevoir Jésus dans sa vie et ouvrir la porte de nos cœurs. L'Apocalypse, chapitre 3. Église de Laodicée, si je me souviens bien. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et qu'il m'ouvre la porte, alors à ce moment-là, je rentrerai chez lui et je ferai ma demeure chez lui et nous souperons ensemble, qui est l'image de la parfaite communion, relation et intimité. Donc, combien le monde s'est fourvoyée, combien la piété des hommes a été dévoyée pour s'imaginer, comme tout le reste, que c'était à l'extérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur. Jésus nous dit, mais si, je frappe à la porte des cœurs. C'est ça l'intérêt et c'est ça le principal. Et une dernière chose brièvement. Et si notre maison, celle-ci, devenait son sanctuaire et son temple. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, ça? Quelqu'un qui l'a écrit? Dans Corinthiens, écoutez, il y a quelque chose de très beau, et je voudrais quand même le citer pour nous rappeler que ce sont des choses réelles. Ce que nous comprenons de la Bible, nous le comprenons en esprit, nous ne le comprenons pas d'une manière humaine, charnelle. Et c'est Paul qui dira, mais ne savez-vous pas, verset 19, 1 Corinthiens 6, que votre corps est le temple de l'esprit, la véritable cathédrale, la basilique, l'église, la chapelle, autrement plus belle que tout l'ouvrage des hommes, eh bien, c'est notre cœur et c'est notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Voilà, la maison de Dieu, où est-elle? Elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est magnifique. Les choses que la Bible nous révèle et que l'Évangile met en lumière, c'est que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que ce que nous pouvons comprendre de Dieu, c'est Dieu qui nous l'enseigne, c'est Christ qui nous l'enseigne, c'est le Saint-Esprit, sa parole, qui illumine notre vie et notre cœur pour nous dire que le véritable temple, eh bien, c'est la vie d'un homme, c'est son cœur. Son corps et son cœur, tout simplement. Alors, nous le savons maintenant. Alors, comment va-t-on savoir que nous avons reçu Jésus? Toute la question est là. Et je ne vais pas recommencer une prédication, parce que là, nous repartirons sur l'ABC de l'Évangile. Reprends-toi. Demande pardon à Dieu. Confesse tes péchés. C'est pas la peine de le faire devant les hommes. Mais dans ton intimité, le Saint-Esprit te demande de te repentir. Et puis, la repentance va ouvrir une nouvelle porte parce que c'est une clé, ça, la repentance. Et nous entrons dans une nouvelle dimension qui s'appelle la conversion. Conversion à Jésus-Christ. J'ai choisi Jésus-Christ. Je veux que ce soit lui qui soit mon sauveur, mon Seigneur. Je crois, j'ai mis toute ma confiance en lui et je lui offre finalement mon corps, mon âme, mon esprit, entièrement. Et c'est là où il va faire sa demeure. Je suis devenu son temple et son sanctuaire. C'est lui maintenant qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs dans ma vie. Et la réponse que Dieu va me donner, troisième porte, c'est que je vais complètement réaménager, balayer et orner la maison d'une nouvelle naissance à travers des fruits, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la foi, enfin, les fruits du Saint-Esprit. Parce que c'est ça, comme ça que les choses se passent, tout simplement. Comment va-t-on? Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Voilà. Vous savez où est votre maison? Vous avez une adresse. Oui, vous avez une adresse. Vous n'êtes pas sous les ponts. Enfin, surtout celui de Saint-Nazaire. Vous allez me dire, il n'y a pas trop de courant d'air. Hein. Mais bon, mais voilà, vous savez. Et on est forcément dans une société obligée d'avoir un domicile. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent le véritable domicile. Hein. Ils mettent tout dans leur maison extérieure. Ils se font une gloire peut-être de construire des maisons somptueuses, voire même des sanctuaires religieux. Mais ils ne connaissent pas la véritable maison où Dieu se plaît. Où demeures-tu, Jésus? Est-ce que tu demeures en moi ou tu demeures, je ne sais pas? Est-ce que tu demeures en moi? Alors il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Naturellement. Parce que là où est Jésus, bien vous savez, on ne sera pas tout seul, hein. Et on aura une seule pensée, une même âme, un même cœur, un même esprit. Il y avait énormément de gens qui étaient là, naturellement. Alors, je voudrais simplement vous dire, c'est vrai que quelquefois Jésus peut déranger. Mais c'est un bon dérangement. C'est un bon déménagement, si vous voulez aller par là. On n'aime pas trop les déménagements. On n'aime pas trop que nos affaires soient un petit peu bousculées. On n'aime pas trop que, quelque part, on soit remis en cause. Mais il y a des causes mauvaises et il y a des bonnes causes. Il y a des causes salutaires et il y a des causes éternelles. C'est ainsi que les choses peuvent être dites, tout simplement. Alors la réponse, quelle sera la réponse pour chacun d'entre nous? Alors je sais que vous qui écoutez ce soir, vous avez fait une place, et probablement la meilleure place dans votre cœur, à Jésus. Ouais. Nous avons un hôte de marque. Nous avons un invité de distinction. Non pas humain, mais c'est un invité divin. Et il nous parle tous les jours. Il prend soin de nous. Nous l'avons fait rentrer dans notre maison. Il s'occupe de notre maison. C'est pas vrai, ça? Eh oui. Dans tous les domaines de notre existence. Dans notre domaine, on parlait de l'affectivité. Il s'en occupe. Dans le domaine matériel. Dans le domaine peut-être même économique. Tout ce que vous voudrez. Toutes les situations, il s'en occupe. Parce que nous lui avons demandé de rentrer dans notre maison. Oui. Et une dernière chose. Est-ce que nous avons peur que les gens apprennent que Jésus habite chez nous? Si je le dis comme ça, vous savez, je pourrais dire à mes amis, vous savez, moi, il y a quelqu'un qui habite avec moi, il n'y a pas que ma femme, hein. Il y a Jésus. Et on était d'accord tous les deux pour l'inviter. Et il est venu une fois, il n'a jamais sorti. Oh, mais maintenant, ça y est, on est habitué, hein. Eh oui, c'est véritablement le bonheur, hein. C'est vrai? Ouais, c'est le bonheur quand on connaît Jésus, hein. C'est quelque chose de formidable. Parce que c'est lui qui a dit, vous savez, si vous me faites une petite place dans votre maison, dans votre cœur, hein, eh bien moi je voudrais vous dire, je ne veux pas vous gêner, parce que je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce que c'est agréable de vivre avec des gens doux et avec des gens qui sont humbles. C'est formidable, la vie est belle, hein, non? Écoutez, on est les premiers jours de l'année, vous allez me dire que la vie est belle ou quoi? On le chante, que la vie est belle quand on est sauvé. Voilà, que Dieu nous bénisse. On va simplement terminer en remerciant le Seigneur, si vous voulez bien. Et que Dieu nous bénisse, les uns et les autres. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es merveilleux. Ton nom est admirable. Et c'est vrai, Seigneur, c'est pas nous qui t'avons cherché. C'est toi qui es venu un jour sur notre route. En effet, nous étions en errance. Nous étions comme des nomades. Nous allions d'un espoir déçu à un autre espoir déçu. Notre vie était une vanité. Nous étions malheureux, peur de vivre, peur de mourir, peur de perdre. Oui, Seigneur, peur de tout. Mais le jour où tu es venu, tu nous as pris, Seigneur. Tu nous as accompagnés, tu nous as tranquillisés. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Et après des années, oui, voire même des décennies, eh bien, nous avons véritablement goûté que le Seigneur est bon. Alors merci pour ta grâce. Merci de nous avoir rendu capables de t'inviter et de te recevoir avec joie comme Zachée. Nous te remercions et nous te bénissons à l'exemple de Matthieu, parce que nous vivons un festin tous les jours. Nous pouvons le dire même quand les jours sont sombres, même quand il y a des nuages. Nous savons, Seigneur, que nous avons un recours dans la détresse, un recours dans nos solitudes, dans nos peines, dans nos malheurs. C'est Jésus. Nous te remercions et nous te louons, Seigneur, parce que tu viens dans nos maisons de joie, tu viens dans nos maisons de peine, tu es toujours le même, et nous te louons et nous te remercions. Oui, Seigneur, tu as voulu faire de nous, et bien de nos corps et de nos cœurs, le temple de Dieu par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que c'est une réalité, nous le vivons avec une conviction inébranlable. Louange et gloire à toi, et que ton nom véritablement soit béni, et tu bénis tous ceux et celles qui entendent ta parole. Oui, comme ce jour-là, dans cette maison, à Capernaum, il nous est dit qu'ils étaient tous venus en grand nombre pour écouter la parole. Eh bien, Seigneur, que cette parole, en effet, puisse se transformer en appel, et d'un appel, une invitation, et d'une invitation, une réponse, pour tous ceux et celles qui croient, tous ceux et celles qui ont entendu ta parole, et qui reçoivent cette parole, et qui te font la meilleure place dans leur maison. Merci, Jésus. Mmh.